Avis critique.
Raphaël Bourgois.
Les idées au banc d'essai, Avis critique explore toutes les disciplines et les indisciplines. Bonne année à toutes et à tous. Ce soir, comme chaque semaine et tout au long de l'année, deux essais sous le feu de la critique, deux livres de réflexion militants. Dans L'Utopie déchue, paru chez Fayard, Félix Tréguet propose une contre-histoire d'Internet du 15e au 21e siècle. Des bandes chronologiques qui peuvent surprendre, elles visent à montrer comment les évolutions technologiques en matière de communication ont toujours d'abord été des instruments de contestation politique avant que l'État ne parvienne à en faire des outils de discipline, de contrôle et enfin de surveillance. L'essai du cofondateur de la Quadrature du Net vise à décortiquer ce mécanisme qui a systématiquement bridé les utopies émancipatrices de nouvelles technologies. Pire, si on en croit Rudi Reichstadt, auteur de l'opium des imbéciles chez Grasset, Internet a permis à une véritable économie du complotisme de prospérer. Dans cet essai dont il sera question en seconde partie, vif et engagé, qui se présente comme une arme pour se prémunir du complotisme, le fondateur du site Conspiracy Watch revient sur la mécanique de ce phénomène et sur ses réelles conséquences en matière de démocratie. En studio pour discuter de ces deux essais, Eugénie Bassier du Figaro et Géraldine Mosna-Savoie de France Culture. Bonsoir et bonne année à toutes les deux.
Bonsoir, bonne année.
Alors je vous propose de commencer par le livre de Félix Tréguet, L'Utopie déchue, une contre-histoire d'Internet 15e, 21e siècle, paru chez Fayard dans la collection Avenir. C'est une collection qui est dirigée par le philosophe et sociologue Geoffroy de la Gannerie. On retrouve d'ailleurs chez Félix Tréguet un certain nombre des thèmes qui animent aussi Geoffroy de la Gannerie. Félix Tréguet est un chercheur associé au Centre Internet et Société du CNRS, post-doctorant au CERI, le Centre de Recherche Internationale de Sciences Po, mais il a aussi une activité de militant comme membre fondateur de la Quadrature du Net, qui est une association bien connue qui s'est fait connaître justement ces dernières années par sa défense des libertés à l'ère numérique. Cet essai est aussi une réponse au constat d'impuissance éprouvé par l'auteur après avoir tenté, dit-il, de faire prévaloir les libertés publiques contre les politiques de contrôle d'Internet promues par les États. La question posée par Félix Tréguet est donc la suivante. Elle est récurrente dans tous les essais consacrés à Internet et à l'informatisation de la société ces dernières années. Comment se fait-il que le potentiel subversif et émancipateur offert par cette technologie, qui permet à tout le monde de communiquer sans intermédiation, qui permet aux secrets d'être dévoilés, comment se fait-il donc que l'utopie émancipatrice qu'elle portait est échouée? Pire, Internet est devenu un instrument de contrôle et de surveillance de l'espace public très efficace aux mains des États. Pour y répondre, l'auteur se livre à un droit d'inventaire dans l'espoir d'informer les débats urgents et nécessaires quant aux stratégies politiques à tenir face à la prolifération de l'informatique. Il propose donc une contre-histoire d'Internet, la replace dans la perspective des autres grandes évolutions technologiques de la communication comme l'imprimerie, en centrant son propos sur la figure de l'État et sa prétendue stratégie multiséculaire de contrôle de l'espace public. L'approche est donc chronologique, de la réforme à l'informatisation, et sans divulgâcher la fin du livre, Eugénie Bassier, la conclusion est pessimiste, il faudrait donc tout simplement arrêter les machines.
Oui, la conclusion est très pessimiste puisque Tréguet écrit « Il est raisonnable de penser qu'il aurait été préférable que jamais l'ordinateur ne fût inventé ». Donc il va très très loin dans cette déception. Et ce livre raconte la déception d'une utopie, en effet. Comment on est passé d'un Internet émancipateur, censé favoriser la démocratie du savoir, l'échange et la transparence du pouvoir, et qui finalement sert à renforcer le contrôle de l'État, est mis au service de la marchandisation à travers la start-upisation de l'économie, et à des conséquences d'ailleurs écologiques désastreuses à travers l'empreinte carbone du numérique. Là, d'ailleurs, le livre s'ouvre par cet exemple, le spot d'Apple pendant la finale du Super Bowl en 1984, avec ce slogan « 1984 ne sera pas comme 1984 », en disant finalement de George Orwell, l'année qui s'ouvre sera celle d'une révolution démocratique. Internet, finalement, ce ne sera pas l'utopie, la dystopie de George Orwell du contrôle généralisé, mais au contraire l'émancipation par l'ordinateur. Et il revient, donc ça c'est vraiment la scène inaugurale, et il revient ensuite finalement sur cette déception. Et l'originalité de ce livre, je dirais, par rapport à d'autres livres qu'on a pu avoir sur cette question, c'est finalement de remonter très très loin, de remonter jusqu'à l'invention de l'imprimerie, avec toute cette première partie sur la mise en place des dispositifs de contrôle suite à l'invention de l'imprimerie, de la montée de la censure et de la raison d'État. Je dirais que c'est à la fois la force et la faiblesse de ce livre, parce que certes, c'est intéressant de remonter jusqu'à cette époque-là, mais on a l'impression que ça pourrait faire l'objet d'un livre à part entière. finalement de revenir sur la mise en place de la censure et de la raison d'État. Et moi, ce que je regrette dans ce livre, c'est justement son parti pris militant et idéologique, qui est celui de la théorie critique, et qui est donc centré uniquement sur la critique de l'État. C'est-à-dire c'est l'État finalement qui a profité d'Internet, et il me semble que c'est passé à côté quand même d'un aspect majeur qui est quand même le marché, et aujourd'hui il me semble que justement les États sont assez faibles face aux GAFA. Quand on voit la puissance d'Amazon, la puissance de Google, la puissance de Facebook, on se dit que les États au contraire ont abdiqué leur puissance, et Google est en train de devenir plus puissant que les États. Donc est-ce que cette vieille théorie de la raison d'État, de la censure, etc. n'est pas en train de devenir obsolète à l'ère de ces géants qui sont nouvelles superpuissances?
Et on va en discuter. Géraldine Moussa-Savoie, quand même un mot sur le projet de ce livre, cette contre-histoire d'Internet qui, comme vient de le rappeler Eugénie Bastier, propose d'historiciser la question en remontant donc à cette autre grande révolution technologique qui a été l'invention de l'imprimerie et qui a permis évidemment la diffusion massive du savoir, un certain nombre de prises de position politiques. Ça a été important dans la réforme, par exemple, la réforme protestante évidemment. Et donc, Félix Tréguet, à travers cet exemple, en effet, comme vient de le rappeler Eugénie, fait aussi une analyse du rôle de l'État dans cette volonté de reprendre le contrôle face à des technologies qui permettent une forme d'émancipation individuelle.
Oui, alors effectivement, en fait, le projet de Félix Tréguet, c'est assez clair, il est foucaldien, il le dit, il va faire une généalogie. Mais la généalogie, c'est pas tant en fait Internet, c'est l'espace public. Qu'est-ce qui constitue l'espace public? En quoi c'est un usage public de la raison, tel que l'a défini Kant et comme l'a repris Habermas? D'ailleurs, il travaille d'abord avec Habermas, dont le premier livre portait sur l'espace public, et puis il l'abandonne très vite parce qu'il y préfère la démarche de Foucault. Et pour moi, c'est à la fois ça, effectivement, comme l'a dit Eugénie, la force de ce livre, de remonter, de d'étayer son propos, et puis surtout d'inscrire en fait Internet, non pas comme un phénomène particulier à part, mais vraiment dans l'ancrer dans une histoire de l'espace public. Et en même temps, la faiblesse, c'est aussi de se dire que l'espace public ne serait qu'une opposition ou en opposition face à l'État. Alors que effectivement, il y a Google, il y a d'autres puissances qui sont moins analysées ou pas analysées, mais il faudrait aussi revenir en fait sur qui constitue l'espace public, à savoir des individus. Et là, ce livre est très intéressant parce que il ne fait que nous décrire des initiatives de citoyens ou d'individus qui se constituent en communauté. Moi, j'aime beaucoup, il rappelle quand même que Gilles Deleuze a fait un portrait du hacker, il parle des communautés hippies. Il y a vraiment quatre périodes. Donc il y a le moment de l'imprimerie, là, c'est vraiment la naissance de l'espace public. Et puis après, il y a l'informatisation, donc au début du XXe siècle, puis après sa subversion. Et enfin, aujourd'hui, le moment où il parle de reféodalisation.
De l'espace public bourgeois, pour voilà, compléter la citation.
Exactement. Et c'est là où, effectivement, il manque, pour moi, quelque chose qui est... On doit dépasser quand même cette alternative entre État et Internet pour voir, en fait, le rôle des responsabilités individuelles qui ont à la fois contribué à l'émergence d'Internet et en ont fait un espace public en tant que tel, mais aussi ces rôles des individus qui aussi ont contribué à figer cet espace public en des zones très rigides d'interaction avec une forme de censure qui procède des individus eux-mêmes ou de législation, on va dire, minime à l'échelle individuelle.
Et ce qui est intéressant aussi, je trouve, c'est de décrire l'ambivalence du rapport à la technique qui est à chaque fois pris soit comme un outil de contrôle, soit comme un outil d'émancipation. Et on voit que finalement, les choses ne sont pas linéaires, puisqu'au début d'Internet, les premiers pas de l'informatisation, l'ordinateur est associé spontanément à la bureaucratisation, à l'état fort, etc. C'est le moment justement d'Orwell, où finalement l'ordinateur est quelque chose de très... C'est une vision mécaniciste, très froide, très dictatoriale de l'ordinateur. Et puis petit à petit, on voit que une deuxième... Et ça va jusqu'aux années 60-70 avec Jacques Ellul, la critique de la technique, une vision très négative de la technique. Et puis, née au début, à la fin des années 70, début des années 80, une vision positive de la technique. Finalement, la technique, on se dit, voilà, finalement, ça pourrait être un outil d'émancipation. Et on voit que ce rapport est sans cesse ambivalent. Et donc, ce qu'il appelle la période de subversion, c'est la période allant des années 80 aux années 2000, qui est la période, selon lui, où finalement, il y a cette utopie d'Internet a régné, où on a cru que finalement, avec ces hippies technophiles qui pensaient que par Internet, on allait avoir davantage de démocratie, on allait pouvoir subvertir les États. Donc, c'est le règne de l'Internet militant avec les hackers, tous ces réseaux associatifs qui se servaient d'Internet pour se rassembler, pour faire des manifestations, pour même hacker l'État ou les grandes entreprises. Et très vite, finalement, il y a eu une espèce de L'État a repris la main et en fait, on s'est rendu compte que cette utopie n'a été qu'une parenthèse.
Alors, c'est à cœur, il n'a pas complètement disparu. Hein. Je conseille la lecture des livres de Michel Lallemand, notamment le sociologue Michel Lallemand, qui a beaucoup travaillé dans l'âge du fer, notamment ces livres qui sont publiés au Seuil, sur ces communautés de hackers qui existent encore. Mais c'est intéressant de voir justement leur évolution politique. Mais c'est pas tout à fait le sujet aujourd'hui, même s'il en est question dans ce livre de Félix Tréguet, L'utopie déchue, une contre-histoire d'Internet, 15e, 21e siècle, publié donc chez Fayard. Vous avez commencé à citer Géraldine Mosnier-Savoie, Gilles Deleuze. Je reconnais bien là la collaboratrice de l'émission d'Adèle Van Rett, des chemins de la philosophie. Mais allons un petit peu plus loin, parce qu'en fait, on voit depuis un certain temps se dessiner dans ce type d'ouvrage une espèce de généalogie qui va de Foucault à Deleuze, puis à Tony Negri, sur l'évolution de société de discipline, en société de contrôle, puis en société de surveillance. C'est une trilogie, enfin une évolution qui est assez claire aujourd'hui dans un certain nombre d'ouvrages qui s'interrogent sur la fonction de la technologie aux mains de l'État. Et là, c'est aussi mobilisé par Félix Tréguet dans ce livre.
Alors moi, ce que je trouve passionnant en fait dans ce livre, c'est de se dire voilà, Internet est un objet conceptuel et il va falloir le penser, mais tout le problème, et en fait c'est quelque chose autour duquel les essais de philosophie, je trouve, tournent beaucoup et en fait ont du mal à se prononcer, c'est que Internet, bah, comme le dit très bien Félix Tréguet, c'est une utopie. Donc ça veut dire qu'en fait c'est un lieu, on peut pas le situer, on sait pas où il est, on sait pas à quelle loi il répond. Donc en fait ça demande aux philosophes peut-être de créer de nouveaux concepts ou de les adapter. Et on voit bien que dans ce qui décrit Félix Tréguet dans cet affrontement en fait entre Internet, l'espace public, les citoyens, les responsabilités individuelles et l'État, on voit bien que l'État essaye de reprendre la main de manière insidieuse, sans être dans une censure claire, frontale. Par exemple, il parle plutôt de vigilance, de contrôle. Alors déjà, le terme de contrôle est un petit peu problématique, mais disons qu'il n'y a pas d'interdiction.
Pourquoi vous le trouvez problématique, le terme de contrôle?
Parce que le terme de contrôle en tant que tel renvoie, comme vous le disiez très bien, à des dispositifs de surveillance. Alors qu'un terme comme vigilance peut passer beaucoup plus facilement. Mais on voit bien que l'État essaye de s'adapter à ce lieu indistinct, à essayer de légiférer, et c'est très compliqué. Et on voit bien, et je voulais en venir à ça, que les philosophes eux-mêmes, en fait, cherchent des moyens d'analyser Internet. Quel est cet objet? Est-ce que c'est juste un espace public? Est-ce qu'il s'y joue vraiment un affrontement entre l'État et les citoyens? Ça, c'est une question à poser. C'est-à-dire que quand on se dit que c'est assez réducteur comme schéma, à savoir d'opposer d'un côté le hacker hippie, et je schématise, et l'État, on peut se demander est-ce qu'il ne faudrait pas inventer de nouveaux concepts ou les faire évoluer face à cet objet comme Internet.
Oui, et je trouve qu'il minimise en effet la dimension marchande d'Internet pour se focaliser sur l'État, et il minimise aussi la dimension cognitive au profit d'une dimension seulement politique, c'est-à-dire qu'Internet aussi transforme notre rapport au savoir, notamment avec la question de l'attention. Il l'évoque au passage, mais et par exemple, c'est pas le, pour moi, la surveillance n'est pas le seul problème. Et à la limite, d'ailleurs, que l'État utilise Internet pour surveiller les terroristes ou des gens voulant effectivement fomenter des attentats, ça ne me dérange absolument pas. Ce qui, par contre, je trouve qu'il ne met pas assez l'accent sur, par exemple, la radicalisation politique qui est à l'œuvre grâce à Internet.
On en parlera avec Frédéric Schlatt.
Exactement. Ouais. Et ça, il le minimise totalement, puisqu'il dit, il appelle ça la panique morale, il dit que c'est un mépris de la classe politique pour la plèbe bruyante, et finalement, toute la radicalisation politique, les bulles de filtre qui aujourd'hui règnent sur Internet, c'est-à-dire le fait que, finalement, sur les réseaux sociaux, on ne voit que des choses qui vont dans le sens de nos opinions et qu'on est renforcé et radicalisé dans nos opinions par les réseaux sociaux, et qui crée une polarisation politique absolument terrible dans le champ politique. Tout cela, il ne l'évoque pas, et je trouve ça assez dommage, parce que pour moi c'est un des problèmes majeurs aujourd'hui que pose Internet. Et il y a aussi une utopie déchue de ce côté-là, c'est-à-dire l'idée que Internet allait permettre le dialogue et l'échange des citoyens. On voit qu'aujourd'hui c'est plutôt la guerre de tous contre tous et la radicalisation des opinions, et ça, c'est une dimension qui est absente du livre au profit de, c'est toujours l'État le méchant, et je trouve qu'il sous-estime complètement cette dimension.
Alors, il faut rappeler aussi que Félix Tréguet, je l'ai dit en introduction de l'émission, est l'un des membres fondateurs de la Quadrature du Net, qui est une association qui, depuis un certain nombre d'années, se bat pour la défense des libertés à l'ère numérique, avec une approche et une conception très extensive de la notion de liberté. Géraldine Mosnier-Savoie.
Oui, alors je reviens juste sur ce que vient de dire Eugénie, à savoir sur, effectivement, il n'y a pas que les que l'État, et moi aussi, c'est ce que j'ai fait remarquer assez vite et ce que j'ai compris au fur et à mesure de la lecture de ce livre. Mais en même temps, ce qui est intéressant aussi, c'est que Félix Tréguier nous décrit la manière dont l'État agit. J'ai parlé de vigilance plutôt que d'interdiction, de contrôle plutôt que de censure. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de décliner toutes les manières dont l'État a essayé de s'adapter à ce nouvel objet qui était Internet, ce nouvel espace public, cyber-espace public, et en même temps a essayé d'adapter son vocabulaire, sa manière d'intervenir. Et c'est vrai que l'État, si on caricature un petit peu le propos, on voit vraiment effectivement que c'est vraiment un combat entre ceux qui veulent être libres avec Internet et l'État qui veut contrôler les gens qui veulent être libres. Donc c'est un schéma assez simple, mais en fait, il est quand même beaucoup plus subtil que ça à la lecture. J'ai pas envie non plus de simplifier ce constat-là, parce que toutes les manières dont l'État est intervenu est beaucoup plus subtile, et c'est ça aussi qui est décrit. Il faut peut-être, en fait, je me demande en fait s'il faut vraiment parler d'Internet avec ce livre, mais plutôt de l'espace public en général, en disant la manière dont l'État intervient dans cet espace public. Et moi, ça me fait penser, vous avez cité Raphaël, les livres de Michel Lallemand. Moi, je pense au texte de François Sureau qui s'appelle Sans la liberté, où il parle de cet État, la manière dont l'État intervient, et notamment cette manière qu'il a justement pour contrôler la radicalisation, de vouloir légiférer sur un espace qui pourrait, d'une certaine manière, rester libre, ou en tout cas pour lequel il faudrait inventer d'autres manières de normer.
Oui, je suis d'accord, mais François Sureau, dans son livre, parle aussi de lois qui sont physiques, hein, c'est-à-dire par exemple les arrestations arbitraires, etc., et pas forcément sur Internet, même si effectivement on peut se demander, avec la loi Avia récemment, qui a été d'ailleurs heureusement détricotée au Sénat, la loi Avia est un exemple typique de cette volonté de l'État de censurer sur Internet certaines opinions, au motif d'une lutte contre la haine, qui est d'ailleurs difficilement définissable d'un point de vue politique. Donc là, oui, effectivement, on voit qu'il y a cette dérive-là, qu'elle existe. Et d'ailleurs, il y a une contestation politique, c'est-à-dire que, par exemple, l'opposition est en train de détricoter la loi que veut mettre en place l'État. Mais encore une fois, je trouve que ce qui est dommage en cible, c'était ce parti pris finalement de diabolisation de la raison d'État. Pour moi, la raison d'État, bon, évidemment, il suit la théorie de Foucault qui décrit cette funeste raison d'État qui est mise en œuvre pour limiter la liberté des citoyens. Mais moi, je pense au contraire, enfin, que la raison d'État, elle est là aussi pour répondre à des demandes des citoyens. Il y a une demande de protection. C'est des demandes contradictoires dans l'espace public. Il y a aussi dans l'espace public des citoyens qui demandent à être protégés contre le terrorisme. Ils demandent à l'État n'est pas un monstre qui a des intentions malines. Il répond à des demandes contradictoires des citoyens. Et je crois que vouloir en faire absolument, lui prêter absolument des intentions néfaste, c'est finalement c'est une projection subjectiviste sur l'État, et je trouve ça un peu dommage.
Alors évidemment, depuis le début de cette conversation, on a beaucoup parlé de la question de l'État, de l'espace public, c'est cette tension qu'analyse Félix Tréguier. Il y a aussi toute une réflexion sur la technique et sur le progrès, Géraldine Mosna-Savoie, remettant en cause l'idée, bon, ça c'est devenu aussi quelque chose d'assez commun de l'entendre dire, mais que un progrès technique ne s'accompagne pas forcément d'un progrès des libertés ou d'un progrès plus largement en termes sociaux, c'est une idée qui est très présente aussi chez Félix Tréguier, qui nous cite toute l'importance de l'automation, évidemment, aujourd'hui dans nos vies, qui cite Norbert Wiener, qui est le penseur de la cybernétique, qu'on voit beaucoup ressurgir aussi ces derniers temps, pour une approche plus humaniste, évidemment, du rapport aux machines.
Alors on pouvait pas d'une certaine manière passer à côté de ces auteurs-là quand on parle d'Internet, et le rapporter à la question effectivement technique et tous les enjeux du progrès et effectivement de l'usage de la technique et maintenant de la technologie. Par ailleurs, en fait, Félix Tréguier, il faut quand même le dire, il est sociologue. Donc, et il a une approche de sociologue. Donc, ça veut dire en fait qu'il va faire vraiment un état des lieux de la situation. Et en fait, il a une thèse de départ qui est de dire: on pensait qu'Internet c'est un espace de liberté, on pensait que la technique était un progrès et allait nous émanciper. Et finalement, c'est beaucoup plus compliqué. Et ça reste assez descriptif, en fait. Et c'est là où, loin de moi l'idée de dire que la sociologie n'est que description, mais il y a quand même plus une généalogie et une description des étapes de transformation de cette technique qui est Internet, cette technique informatique, que l'idée de tirer des conclusions de « alors voilà, comment on pourrait faire maintenant ? Quelles normes on pourrait détruire, retravailler ?» Et Habermas, Foucault sont cités, ou Jacques Ellul, mais finalement ce sont des appuis théoriques, mais il n'y a pas... en plus de ça, une conceptualisation d'Internet en tant que tel et un projet, je dirais même, j'ose le mot, démocratique d'Internet qui se déploie à la fin.
Oui, il y a quand même juste, en conclusion, on l'a dit tout à l'heure, mais il y a quand même une idée qui est une sorte de ludisme technologique et il faut détruire la machine et éteindre Internet, Eugénie Bastier.
C'est un peu... Là aussi, est-ce que c'est pas une utopie? Parce que j'ai vu que Félix Tréguet lui-même avait Twitter, donc lui-même participe à ce système qu'il dénonce et nous sommes tous comme ça. Ce qui est intéressant, c'est que ce livre est aussi un livre sur le rapport entre la gauche et la technique, c'est-à-dire cette ambivalence. Est-ce que la gauche progressiste et la question de la technologie, il y a eu une première déception avec le communisme finalement qui avait voulu mettre en place mettre la technique et l'ordinateur au service de l'émancipation des masses, puis cette deuxième vague d'émancipation progressiste avec la technique comme outil d'émancipation individuelle, et on voit qu'aujourd'hui finalement c'est le triomphe posthume de Jacques Ellul et qu'il y a peu de discours de gauche aujourd'hui qui défendent une utopie technologique et il n'y a finalement plus que les libéraux, voire même les libéraux extrêmes qui défendent cette utopie technologique et c'est vraiment un nouveau clivage idéologique et c'en est fini des noces de la gauche et de la technique.
Le communisme, c'est le soviet et l'électricité, disait Staline. Merci de nous le rappeler, Eugénie Bastier. Félix Tréguet, L'utopie déchue, une contre-histoire d'Internet, 15e, 21e siècle, c'est donc dans la collection Avenir aux éditions Fayard.
France Culture, Avis Critique,
Raphaël Bourgois.
Bon baiser de Mars. L'équipe de choc est de retour, crie-le. Tu connais la Célessa ou Pacacho, rarement KO. Message personnel à ceux qui visent le titre, le chemin, la ceinture.
M6 Queen sur le ring.
Je trappe 7, crash sec, mais
live tout droit de Fort Greene à Brooklyn.
On vient convertir les sceptiques, les éclairer, réchauffer leur climat.
Block party, block party, quand les platines sont de sortie.
Tout est prêt pour découper.
Tu piges mes lyrics.
A tous les jeunes MC, mettez le plaisir d'abord.
Rap street, 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 rap street.
Rap street, dynamite, pure guerre de tranchées.
Rap street, dynamite, pure guerre de tranchées.
Rap street, dynamite, pure guerre de tranchées.
Rap street,
je vandalise le rap simple comme ABC. Tu entends le son de loin dans nos tirs quand les vitres sont abaissées. J'ai ce fond dans mon système, il faut des rimes qui se tiennent. Et toutes celles et ceux qui sont pris viennent. Écoute, la musique ne se planifie pas, même ceux qui se voyaient beaux ne se qualifient pas. Alors tous les jours au laboratoire, je brosse mes gammes pour donner le maximum. Une fois devant l'oratoire, les caniches nains, ça veut tout ce qu'on est des Rottweilers. 100% des mots sont à nous, c'est quoi ce rap avec des ghostwriters? J'en pour seul, c'est l'effet domino. Là sur le sentier de la guerre comme Géronimo, Smike les humilie, tous ce faux bling à Nick et Marie Jean, comme Rakim les alignés, les plis en ordre alphabétique. Je capterai jamais pourquoi quand les frangins touchent le gras, ils se comportent comme les pires bourgeois. Sale manière, sale goût, sale fréquentation, leurs parents se sont saignés, dis-moi où est leur éducation. À mes yeux ça reste trop vague. Alors c'est quoi que tu fais, rap ou violence, pas beau escroc blague. À l'opposé d'un tataki cruel extérieur dedans, complètement cuit ainsi fait le petit con fou la merde puis s'enfuit, ça s'étonne un an après que la guerrière est sous les pissenlits. T'es encore sur le quai comme Benny Blanco, j'suis déjà loin devant mes ramen à Omotesando.
Nom de code shuriken avec un cas comme Kunta Kinte. J'viens d'un endroit où les frères sont rarement acquittés. Il paraît que mon hip-hop don't stop nous a quittés. Viens pas t'y frotter quand même, Gary ça va piquer. Compliqué, ça va devenir ma team va rappliquer. Fini les balbutiements, on parle d'art appliqué. On me demande d'aller doucement, j'ai pas le temps d'expliquer. Trop de gammes attendent pour faire un nom de leur sobriquet. Ouais. Mon son un lance-flamme, qu'est-ce qu'ils foutent avec leur briquet? Ça se prend pour des kings, mais ça va très vite abdiquer.
Le dernier album d'IAM, Yasuke, c'est le titre Homo C'était Sendo, deuxième temps de l'émission. Je vous propose de nous pencher maintenant sur le livre de Rudi Reichstadt, L'opium des imbéciles, sous-titré La critique du complotisme est un sport de combat, et publié chez Grasset. Comme Félix Tréguet, Rudi Reichstadt est un militant de la cause qu'il entend ici analyser, fondateur et directeur du site Conspiracy Watch, consacré à l'analyse critique du conspirationnisme et des théories du complot. Il est aussi membre de l'Observatoire des radicalités politiques de la Fondation Jean Jaurès. Pour être complet, je signale qu'il a participé à l'émission Mécanique du complotisme, aux premiers épisodes sur le 11 septembre, un podcast natif de France Culture que l'on peut évidemment trouver sur franceculture.fr. Voilà pour l'autopromo. Car cette question du complotisme occupe beaucoup les esprits, au moins depuis le 11 septembre 2001. Non pas, rappelle Rudi Reichstadt, que l'obsession pour la concertation de groupes d'individus de manière clandestine en vue d'un objectif répréhensible, commandité par des intérêts cachés de nature à faire basculer l'histoire. Non pas que cette préoccupation soit nouvelle, mais quelque chose s'est passé au moment des attentats contre le World Trade Center qui fournit une sorte d'idéal type de précipité chimiquement pure de ce qui compose aujourd'hui le complotisme. C'est un business qui doit se nourrir en permanence, ce qui explique qu'à chaque événement surgisse immédiatement la contestation même de sa réalité. Internet joue un rôle évidemment fondamental. C'est aussi un outil au service d'idéologies politiques dont l'antisémitisme est souvent le dénominateur commun. Rudi Reichstadt articule tout cela dans ce livre, se penche sur les différentes techniques des professionnels du complot et sur les conséquences démocratiques du phénomène, dont il tente même une difficile définition. Mais il va plus loin, car s'il parle d'opium des imbéciles, c'est qu'il est parti en croisade à la fois contre la crédulité bêlante et contre ce qu'il appelle l'innocentisme. Géraldine Mosna-Savoie, c'est un essai qui se pense comme un manuel de résistance au complotisme, ce mal du 21e siècle.
Alors c'est à les différences du livre de Félix Tréguet, qui est vraiment une recherche hein, sur Internet. Là, on est plus dans l'essai, effectivement. Alors, vous l'avez dit, dans le manuel. Donc, c'est un livre qui se lit, il faut le dire, très simplement, qui a une structure très simple. Donc, il nous décrit le complotisme, il revient sur sa définition, ce qui est déjà, en fait, un pari, parce que on entend parler tout le temps de complot, de complotisme, de théorie du complot. Et finalement, en fait, on a peu de définitions assez simples de ce phénomène. Il revient aussi sur le portrait du complotiste, et puis là il dénonce beaucoup plus à la fin de son livre, il revient beaucoup sur la tolérance qu'on a à l'égard du complotisme, à savoir quand on se dit mais on comprend qu'il y ait des théories du complot puisque on nous a tellement menti jusque-là que c'est bien légitime qu'il y en ait.
Oui, il y a cette excuse et il y a aussi ce qu'il appelle l'innocentisme et qui est une attaque en règle qui vise la pensée critique et oui, notamment un livre de Luc Boltanski sur le sujet.
Oui, alors il mâche pas ces mots contre Frédéric Lordon notamment et Luc Boltanski qui ont travaillé sur le complotisme et qui ont minimisé, selon Rudi Reichstadt, ses effets dévastateurs et ont simplement dit que finalement les gens, les personnes complotistes finalement essayaient de rechercher la vérité, avait développé un sens critique, mais de la mauvaise manière, et qu'il s'inscrivait dans un contexte d'opacité de l'État, d'opacité de manœuvres politiques qui pouvaient excuser, en fait, cette erreur. Mais je voudrais revenir, en fait, sur l'idée que ce livre a, enfin l'expérience que j'ai eue en le lisant, c'est que ça m'a été utile, salvateur pour moi, parce que je manquais en fait de clés, de données sur ce qu'était le complotisme en tant que tel, quelque chose de clair, de simple. Et la deuxième partie, je vais dire, m'a beaucoup plus frappée, et ça a été une expérience de lecture pour moi, parce que en fait j'ai eu l'impression que Rudi Reichstadt, eh ben, il s'adressait à moi. Et qu'il me disait, en fait, vous avez été beaucoup trop tolérante à l'égard du complotisme. Vous n'avez pas été seulement spectatrice du complotisme, vous y avez participé d'une certaine manière, soit en le minimisant, soit en l'excusant, soit en le légitimant. Et c'est la grande force pour moi de ce livre, c'est de dire, en fait, on n'est pas tous innocents face au complotisme et d'éveiller cette conscience-là. C'est sa grande force, mais c'est aussi sa limite parce qu'il y a un effet de culpabilisation. C'est-à-dire qu'on a l'impression que s'il y a du complotisme, même quand on n'y croit pas, même quand on a l'impression d'être critique, on est quand même fautif d'avoir laissé passer des choses. Et je trouve que le geste d'explicitation, d'éclaircissement du complotisme trouve une limite dans le fait de culpabiliser le lecteur.
Oui, on va revenir sur cette analyse de la mécanique du complotisme pour reprendre ce titre d'un podcast de France Culture, Eugénie Bastier, mais juste un mot quand même pour compléter ce que vient de dire Géraldine Mosna-Savoie. Finalement, puisque on est tous en quelque sorte complices du complotisme, de ne pas assez le dénoncer, ce mur de complaisance qui entoure le complotisme, cette façon d'innocenter les complotistes en disant que c'est un faux problème, une arme aux mains des dominants qui veulent conserver la main sur la vérité. Voilà, c'est vrai que c'est des choses qu'on a pu entendre et que dénonce Rudy Richel. Bah lui, il s'embarrasse pas, hein, puisqu'il dit bah voilà, tout ça c'est une approche imbécile, hein, c'est dans le titre, le problème des imbéciles. Et donc c'est une façon finalement de critiquer la chose qui peut aussi paraître un peu limitée. Eugénie Bastier.
Oui, et puis enfin, ce qui est vrai, c'est qu'on a tous une part de complotisme en nous. Ce sont des biais cognitifs qui sont intrinsèques à l'être humain. C'est-à-dire que l'être humain a, par définition et par essence, envie de croire des choses qui vont dans le sens de ses opinions déjà préconçues, a envie d'avoir des explications simples à des choses complexes, a envie d'avoir une cause qui explique tout. Donc c'est un biais cognitif propre à l'être humain et nous avons tous cette tentation complotiste en nous qu'il nous faut combattre par l'esprit critique, mais ce qui montre bien, c'est que trop d'esprit critique tue l'esprit critique, et finalement, à force de voir partout du pouvoir, des instruments de pouvoir, etc., on finit par une certaine forme de pensée critique peut conduire au complotisme. Et c'est vrai que c'est ce que j'ai trouvé intéressant dans ce livre, c'est ce qu'il appelle les conspi-friendly, c'est-à-dire les amis du complotisme, qui finalement légitiment par leur discours, minimisent ce rapport au complotisme. Et c'est intéressant parce que la grande question, moi, je trouve, que pose le complotiste, c'est est-ce qu'il y en a plus aujourd'hui qu'avant? Ça, c'est pour moi la question la plus intéressante. Et effectivement, on lui dit que Internet a démultiplié la capacité de nuisance du complotisme. C'est sans doute vrai, mais on peut aussi se demander s'il n'y a pas un biais de proportionnalité, c'est-à-dire le fait que par Internet, on voit plus, il y a une visibilité davantage du complotisme. Mais est-ce que, dans les faits, les gens sont plus complotistes qu'avant? Il y a un sondage récent qui a dit que 9% des Français étaient platistes, s'ils croyaient que la Terre était plate. On peut se demander si dans les années 60 ou 50, où une grosse partie de était plus ou moins. Franchement, je suis pas sûre que ce soit pire aujourd'hui qu'avant. Moi, je pense que le complotisme fait partie, encore une fois, de l'humanité. Et quand on voit, c'est très frappant, par exemple, de comparer, par exemple, il y a eu le film J'accuse récemment sur l'affaire Dreyfus. Le rapport au complot était exactement le même qu'aujourd'hui. Et d'ailleurs, il y avait la même minimisation de la part d'une certaine gauche du complotisme, en disant voilà, de toute façon, c'est un truc de bourgeois, c'est les bourgeois qui diabolisent le peuple, etc. Et aujourd'hui, on retrouve ces mêmes mécaniques dans une certaine gauche. Donc les parallèles sont assez fascinants et ce qui montre, à mon avis, que le complotisme a toujours existé. Et ce livre ne règle pas la question de est-ce qu'il y en a plus aujourd'hui qu'avant.
Et le même rôle de l'antisémitisme dans le complotisme. Et évidemment, c'est vrai que si on repense, ça a été déjà évoqué, mais à la grande peur au moment de la Révolution française, elle était 89. Ça a des impacts autrement plus violents et des morts d'autrement plus importants que, par exemple, ce qui peut se passer aujourd'hui avec le complotisme, Géraldine Mosna-Savoie. Vous voyez, moi aussi, je me fais dans le relativisme et dans la complaisance envers le complot.
Alors pour la différence, moi je crois que cette distinction entre une nature complotiste qu'on aurait tous, je peux l'entendre, c'est assez empirique, on peut tous en s'en rendre compte. La différence avec aujourd'hui est savoir si on a plus ou moins, je ne sais pas si c'est vraiment ce qui intéresse Rudi Rechtstadt, mais de fait, c'est un phénomène plus visible. C'est pas tant que les complotistes sont plus visibles, c'est que le complotisme a un terrain de jeu mais incroyable. Alors je reviens sur les platistes, et c'est très drôle comme exemple, et en même temps c'est assez effrayant, parce que Rudi Rechtstadt justement nous dit, ça vous fait bien rire en fait, les platistes, mais figurez-vous qu'en fait il faut plus d'une vie pour regarder toutes les vidéos en ligne des théories complotistes du platisme. Et c'est pas du coup la distinction, savoir en fait ce qui relève de la nature proprement humaine, du biais cognitif et du phénomène actuel n'est pas du tout l'enjeu. L'enjeu de Rudi Rechtstadt, il me semble, c'est de dire, il y a du complotisme en moment, peu importe s'il est plus frappant ou pas qu'avant, mais là, il faut s'en préoccuper et on est tous concernés. Mais ce qui est intéressant, c'est de se demander, on est tous concernés, mais jusqu'où ? Parce que effectivement, si mon biais cognitif proprement complotiste, c'est juste d'avoir un goût pour le doute, pour la critique, est-ce que ça fait de moi une complotiste? Moi, j'aimerais que Rudi Rechtstadt, il me dise « Non, tu n'es pas complotiste parce que tu ne crois pas ça. » Me donne en fait des critères de distinction entre le moment où on est complotiste à minima ou complotiste à au maximum, et ou alors est-ce qu'on est complotiste par nature ou pas. C'est-à-dire que c'est quand même ça la limite, c'est-à-dire nous dire, nous dénoncer des pratiques actuelles, nous dire que on est tous complices de ça, et à la fin en fait ne pas nous dire, nous donner des billes sur c'est quoi la différence entre un doute sceptique acceptable et comme il dit le doute postural stratégique des complotistes, ça me manque. J'ai besoin de savoir quelle est la différence précisément pour me demander si moi aussi je suis complotiste véritablement ou pas.
Alors on est passé un peu vite quand même sur l'analyse de la mécanique complotiste, Eugénie Bastier. Restons sur les platistes ou prenons d'autres exemples. Et c'est un qui est intéressant, parce que comme le rappelait Géraldine, d'abord, si on veut faire le tour de cette théorie platiste, ça prend une vie. Si on veut la déconstruire, ça en prend beaucoup plus d'une, parce que justement, ce que montre bien Rudi Rechtstadt, c'est ce millefeuille argumentatif que mettent en place les complotistes, et aussi les liens entre les différentes théories. C'est-à-dire que ça peut être drôle de se dire, tiens, il y a encore des gens qui pensent que la Terre est plate, sauf que quand on tire un peu le fil, on se rend compte qu'ils pensent que la Terre est plate, mais ils pensent aussi que si on nous le cache, c'est parce qu'il y a un complot d'élite, et notamment, encore une fois, des juifs, des intérêts financiers qui sont jamais très loin dans la tête des complotistes, pour expliquer pourquoi, voilà, aujourd'hui, on nous cache la vérité qui est que la Terre est plate.
Ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a une distinction entre les complots, finalement, j'allais dire de bonne foi, c'est-à-dire où les gens, finalement, croient véritablement que la Terre est plate ou croient véritablement que les Illuminati règnent sur le monde, et la dimension plus politique du complotisme, c'est-à-dire le complotisme comme outil politique, c'est-à-dire utilisé par des gens qui savent très bien que le complot est faux, mais qui utilisent ça pour saper la version officielle d'un événement et pour instiller le doute et donc d'en servir en arme politique.
Exemple typique. Complot du complot.
Non, mais
un
exemple
complot du complotisme.
Non, mais exemple typique, par exemple, le Kremlin sur qui instille le doute sur à chaque fois, par exemple, l'assassinat de Crispal, etc., et qui utilise instille finalement le doute sur la version officielle pour servir politiquement une cause, sans, évidemment sans y croire une seule seconde. Et donc c'est ça que j'ai trouvé intéressant, c'est finalement l'utilisation politique du complotisme qui est récupéré par les hommes politiques. On peut le voir par Trump, par Poutine, etc., mais aussi dans nos démocraties, c'est-à-dire de dire attention, c'est, on instille le doute, et jusqu'à en France des gens comme Mélenchon ou Marine Le Pen, et ça c'est intéressant, c'est-à-dire qu'on se sert du complotisme qui règne dans la société pour faire avancer sa propre vision du monde et sa propre politique. Et là, à mon avis, le véritable danger, parce que le platisme en soi, moi je veux bien qu'on passe du temps à démonter ces théories, mais il me semble quand même que c'est un peu le tonneau des Danaïdes, et c'est un peu d'ailleurs ce qu'on a à la fin de ce livre, c'est-à-dire c'est un sentiment d'impuissance, c'est-à-dire à mon avis il faut quand même choisir ses combats et choisir les complots qu'on décide de critiquer, de démonter, parce que c'est véritablement un océan et on peut pas s'attaquer à tous les complots. Il faut à mon avis choisir les complots les plus nocifs.
Oui, alors on sent effectivement cette impuissance, et Rudi Rechtstadt le dit lui-même, on pourrait passer des heures à démanteler un à un les arguments qui construisent une théorie du complot, mais je suis pas vraiment d'accord avec vous, Eugénie, sur le fait que Rudi Rechtstadt fasse vraiment une différence entre les complots instrumentalisés et le complotisme de instrumentalisé et le complotisme de bonne foi. Moi, j'ai l'impression que tout est dangereux et que c'est peut-être du coup un combat qui est océanique, parce que tout est dangereux. D'autant plus s'il y a un levier naturel dans le complotisme, ça devient effectivement, comme le tonneau des Danaïdes, impossible à combattre. C'est là où on ressent l'impuissance. Et c'est là où je reviens sur ce que je disais, où j'ai l'impression que ce qui peut peut-être manquer à la fin de cet essai, c'est de finalement de pas s'élever comme une voix au-dessus de la masse qui saurait ce qu'est le complotisme ou pas le complotisme, et qui saurait ce qui est grave ou plus ou moins grave, ce qui est un vrai doute ou pas un doute, mais plutôt nous le dire en fait, nous éduquer à ça, si c'est ça qui manque, plutôt que de vouloir démanteler les théories du complot en tant que telles, peut-être s'adresser en fait à la majorité des personnes qui vont sur internet, qui lisent les journaux et qui ne sont pas complotistes, mais qui peuvent être séduits par le complotisme, et donner les armes pour être éveillés à ça, pas juste se dire il y a du complotisme, c'est très grave, finalement si c'est s'en tenir à ça, ça reste trop simple.
est-ce que le complotiste croit vraiment au complot? C'est une fausse question pour Rudi Reichstadt. Il le dit, voilà, donc cette question-là, elle est évacuée assez rapidement dans le livre. Il tente toutefois un portrait robot du complotiste. Il parle d'arrogance de l'ignorance, par exemple. C'est un terme qui est assez intéressant, de vertige narcissique de la dissidence, vision manichéenne du monde. Voilà pour ce portrait robot. Mais c'est vrai, peut-être une autre critique qu'on pourrait formuler à l'égard de ce livre, Eugénie Bastier, c'est que il va englober de la même façon, on va dire, Donald Trump et Fly Rider. C'est-à-dire qu'on a l'impression que, quelle que soit la nature ou l'origine ou la personne qui s'empare de théories complotistes, c'est le même degré de gravité, puisque le simple fait de souscrire à la théorie du complot, c'est participer au crime. Par exemple, quand on dit oui, il y a peut-être des doutes sur le 11 septembre, et ben on participe à l'attaque. On est aussi coupable que les pilotes des avions du 11 septembre, à en croire Rudi Reichstadt. Et juste pour terminer, il ne fait aucune distinction entre, par exemple, la vérité scientifique, donc la Terre est ronde, et des vérités servies par les États, des vérités beaucoup plus politiques sur, je sais pas, l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy, ou même le déroulement du 11 septembre, sur lesquelles, voilà, on a des versions officielles, il y a un ensemble de preuves sur lesquelles, auxquelles on peut souscrire, mais ce n'est pas, comment dire, versé forcément dans le complotisme que de se dire qu'il faut les aborder avec un esprit critique.
Oui. Ce qui est intéressant, je trouve, la dimension intéressante de ce livre, c'est le rapport à la vérité qu'entretiennent les complotistes. Et lui, ce qu'il nous dit, c'est que finalement, non, ce n'est pas la défiance légitime des citoyens qui les pousse au complotisme, c'est qu'ils ont déjà un rapport tordu à la vérité, c'est des gens qui ont un rapport spécifique au mensonge. Et il rappelle très justement que, par exemple, le livre de Thierry Messant, L'effroyable imposture sur le 11 septembre, qui est un livre complètement complotiste sur le 11 septembre, s'est vendu à 100 000 exemplaires avant même le discours de Colin Powell à l'ONU sur les armes chimiques de destruction massive en Irak, qui est évidemment la justification aujourd'hui des théories du complot sur le 11 septembre, en disant, voilà, vous voyez, ils ont menti sur la guerre en Irak. Ça montre bien que tout ça a été monté de toutes pièces, et c'est finalement parce qu'il y a eu ce mensonge-là qu'on a un droit légitime de douter de la version officielle. Et ce qui montre bien, c'est que ça a précédé, que de toute façon, même s'il n'y avait pas eu cette guerre en Irak, même s'il n'y avait pas eu ces mensonges sur la guerre en Irak, il y avait tout de même du complotisme qui était présent. Et donc ça, c'est intéressant, c'est parce que ça nous montre aussi, là, on a une dimension très intéressante, c'est-à-dire le rapport à la vérité dans nos sociétés libérales, individualistes, sans transcendance, sans vérité finalement commune. C'est-à-dire que après la déconstruction de toutes les grandes utopies, de toutes les grandes idéologies, la mort de Dieu, etc. Qu'est-ce qui nous lie? Quelle est cette définition de la vérité? Est-ce qu'elle est scientifique? Est-ce qu'elle est le fruit de l'État? Et ça, c'est vraiment le cœur, à mon avis, du complotisme aujourd'hui. C'est la notion de vérité. C'est-à-dire, qu'est-ce que la vérité dans une société démocratique? Et je trouve que c'est une dimension qui manque peut-être au livre. C'est la généalogie peut-être philosophique de notre rapport à la vérité. Et Taguieff, qui a beaucoup travaillé sur le complotisme, lui fait remonter, par exemple, cet esprit critique complotiste à même à la mentalité des Lumières. C'est-à-dire comment l'esprit critique inoculé par les Lumières a finalement fini par se dévorer lui-même en mettant l'esprit critique partout. Finalement, on ne croit plus à rien. Et Maurizio Ferraris, dans un livre qui s'appelle Post-Vérité, dont on avait parlé ici même, qui est un intellectuel italien, lui fait remonter ce nouveau rapport à la post-vérité, à la déconstruction, aux philosophies de la déconstruction, qui déconstruisent toutes les notions qu'on croyait acquises, et finalement en instillant ce poison du doute partout, créer un rapport complètement distordu à la vérité.
Alors là, c'est très intéressant, et on va terminer là-dessus, Géraldine Mostasava, parce qu'on touche du doigt ce dont on a rapidement parlé au début, c'est-à-dire cette critique de la pensée critique justement menée par Rudi Reichstadt, et notamment de ce livre, hein, Énigmes et complots, de Luc Boltanski, dans lequel il accuse le sociologue d'avoir pris le complotisme non pas comme une force agissante, comme quelque chose de réel, mais comme un révélateur, et donc d'analyser, voilà, ce que le complotisme dit de la société plutôt que d'analyser ce qu'il fait à la société.
Moi, la question que je me suis posée, en fait, quand je suis parvenue à cette donc deuxième partie, on va dire, du livre, où là, en fait, on est tous quand même poussés à se poser des questions sur la manière dont on a considéré jusque-là le complotisme, et où arrivent ces attaques contre Luc Boltanski et aussi Frédéric Lordon. Il parle notamment d'un très long article dans Le Monde diplomatique, dans lequel il faisait preuve apparemment d'une tolérance, ou en tout cas, il essayait de comprendre, d'expliciter l'attitude des complotistes. Alors moi, c'est une partie avec laquelle je suis vraiment... en fait, pour moi, comme je disais, c'est à la fois la force de ce livre de me dire, de me pousser à me poser des questions sur mon rapport au complotisme, et donc du coup, à la vérité, à cette radicalisation du doute, à l'esprit critique. Et en même temps, c'est pour moi la limite, parce que la question que je me pose, c'est, mais à qui s'adresse Rudi Rechtstadt, finalement, quand il écrit ce livre. À qui il s'adresse? Est-ce qu'il s'adresse à n'importe qui? Par exemple, à Lulu Berlu, dont il parle, qui croirait au platisme. Est-ce qu'il s'adresse à lui? C'est difficile, il le traite d'imbécile. Est-ce qu'on peut avoir envie de lire un livre quand on est traité d'imbécile? Est-ce qu'il s'adresse à moi, par exemple, qui vais lire des essais de philo, donc ça va m'intéresser. Effectivement, je suis un peu la cible, mais est-ce que ça réduit pas la portée de son propos, de s'adresser uniquement en fait à des gens qui vont être déjà intéressés par ce qui se dit sur le complotisme? Et puis c'est ce moment-là de règlement de compte, parce que c'est vraiment un règlement de compte entre intellectuels qui ne sont pas d'accord de gauche et de droite sur le rapport qu'on a...
De gauche et de gauche. Hein.
De gauche et de gauche à la théorie du complot. Et moi, ça me gêne, en fait, parce que j'ai pas envie d'assister à ça. Et puis, j'ai envie qu'on me parle du complotisme et de la manière dont on peut lutter contre. Et c'est là où c'est vraiment la très, très grande limite de me dire, mais en fait, à qui s'adresse Rudi Rechtstadt? Pourquoi il le fait? Et est-ce que cette manière, en fait, de réduire, en fait, sa cible n'est pas contre-productif avec son projet, en fait, d'éducation et de lucidité face au complotisme?
Rudi Rechtstadt, l'opium des imbéciles. La critique du complotisme est un sport de combat. Il cite même Bourdieu. C'est publié chez Grasset.
L'instant critique.
L'instant critique, le premier de l'année, des conseils de lecture ou autre chose. Géraldine Mosna-Savoie, vous avez un manuel, voilà, pour une année d'engagement d'action politique.
Un manuel d'action politique. Alors, je me suis dit que c'était quand même un petit peu d'actualité. Alors, c'est pas un essai qui est paru là tout récemment, c'est pas tout frais. C'est reparu en septembre 2019. Alors, c'est un livre de Michael Walzer, c'est Manuel d'action politique. Alors, Michael Walzer, c'est l'un des plus grands philosophes actuels américains, philosophe politique, a notamment travaillé sur la question de la justice, mais ce texte cela n'a rien à voir avec ses thèses sur les sphères de justice. C'est vraiment un manuel au sens propre d'action politique. Et c'est très intéressant parce qu'on peut souvent reprocher aux philosophes politiques d'être très bons pour diagnostiquer les maux de la société de notre époque, mais d'être trop peu prescriptif, de donner trop peu en fait de guides, de conseils pour agir. Et là, il nous dit, Michael Walzer, est-ce qu'il faut un bureau? Quel est le rôle des leaders activistes? Comment on peut toucher les gens? Ou comment faire, par exemple, quand on tombe amoureux d'un de ses camarades? Alors, ça peut sembler un peu anecdotique, mais c'est vraiment... en fait, se joue vraiment cette question de qu'est-ce qui se joue concrètement dans la liberté politique? Vraiment, concrètement, comment on l'exerce? Mais même dans des détails vraiment les plus triviaux. Et il faut le dire quand même que ce texte, Michael Walzer l'a écrit dans les années 70. Des étudiants l'année dernière ont eu vent de ce texte-là et se sont repassés en fait le manuscrit sous le manteau, et donc Michael Walzer a dit mais autant en fait le rééditer, et donc voilà, donc il est revenu en France. Alors il y a tout pour savoir comment s'engager au quotidien sauf les réseaux sociaux, car ils n'existaient pas dans les années 70. Et ça s'appelle donc Manuel d'action politique, c'est de Michael Walzer et c'est chez Premier Parallèle.
Excellente édition Premier Parallèle.
Alors,
Eugénie Bastier.
Moi aussi, c'est pas quelque chose de très nouveau puisque c'est Gallimard qui publie dans le cadre de la publication des œuvres complètes de Simone Veil, la philosophe française morte en Angleterre pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est la deuxième partie de ses écrits de New York et de Londres, puisque effectivement Simone Veil a dû fuir la France puisqu'elle était juive. Elle est partie d'abord à New York, puis à Londres où elle était rédactrice pour la France Libre. Et donc ce sont ses écrits à la fois politiques et religieux de cette période, en dehors de l'enracinement, évidemment, son œuvre majeure qui a été publiée à part. Là, ce sont tous les écrits en dehors de cet ouvrage majeur. On a des textes assez politiques qui évidemment témoignent de cette volonté de Simone Veil de respiritualiser la politique, avec ce fameux texte très connu, Note sur la suppression des partis politiques, qui sera très apprécié après la guerre. Mais aussi des textes religieux parfois dérangeants, puisque il y a un texte par exemple, Israël et les gentils, où Simone Veil, philosophe juive, fait montre d'un anti-judaïsme absolument intransigeant, et on voit son rapport à sa propre, enfin à ses co-religionnaire assez troublant, puisque elle montre que pour elle la pensée grecque est tout et la pensée juive est une forme de déchéance, et c'est assez troublant de voir quelqu'un qui fait partie de cette religion et qui critique si vertement cette religion. Et puis évidemment elle aborde sa conversion au christianisme. et ses hésitations, puisqu'elle n'a jamais voulu franchir le pas et devenir totalement catholique. Elle a refusé le baptême jusqu'au bout, mais elle partage sa foi tourmentée. Donc ce sont des textes à la fois religieux et politiques. C'est vraiment passionnant, et ça ouvre une nouvelle dimension de celle que George Steiner appelait la plus grande philosophe du XXe siècle.
Donc ce sont
c'est chez Gallimard. C'est donc chez Gallimard. Deuxième partie des écrits de New York et de Bong, c'est sorti en novembre dernier.
Merci à toutes les deux. Avis critique, c'est donc terminé. Attaché d'émission, Catherine Denet à la réalisation. Aujourd'hui, c'était Vanessa Nadjar à la prise de son. Guillaume Ledu. Cette émission, vous pouvez évidemment la télécharger, la réécouter sur franceculture.fr. Et s'il y a une seule bonne résolution à prendre en 2020, c'est de s'abonner au podcast d'Avis critique. Dans quelques instants, Jukebox. Thank you.